monter les hommes, monter les vaches. Il a monté il y a quelques termes. Il y a Hod, il y a Hadar, il y a Yofi, Be'er, Feret. En fait, il y a peu de ces termes qui se trouvent dans la Torah et on ne va s'intéresser qu'à ce qui figure explicitement dans la Torah. Presque exclusivement. La première occurrence de la notion de beauté, toujours celle-là qui nous intéresse, première occurrence, elle est, en ce qui concerne les hommes, les êtres humains, c'est dit pour une femme, c'est dit pour Sarah. Et en ce qui concerne les hommes, c'est dit au sujet de Yosef. Et dans le monde animal, c'est dit sur les vaches, c'est des vaches de rêve. Vaches de rêve ou de cauchemar. On parle aussi de beauté du paysage, Eretz Israël, Yerushalayim, le Fénof. On parle aussi de la beauté du clan Israël. Sarah. Avraham Avinu, quand il parle à Sarah, ils arrivent en Égypte et qu'il lui demande de se faire passer pour sa sœur, il utilise l'expression « Yefat Mare ». C'est belle, belle d'aspect, on verra. Quand les sbires de Paro ont repéré Sarah, ils se sont dit les uns aux autres que Sarah était Yafa Me'od. Yafa, elle était belle. C'est la seule fois dans toute la Torah où on utilise le mot Yafa non construit. Yafa Tmaré, Yafa Toa, mais Yafa tout seul. Ça n'a été dit que sur Sarah, et ça n'a jamais été dit par quelqu'un d'autre, donc, que les sbires de Paro. C'est-à-dire, même Abraham Avinu, quand il parle de la beauté de Sarah, il ne dit pas qu'elle est Yafa. Il dit qu'elle est Yafa, qu'elle est Yafa Tmaré. Quand ils disent qu'elle est si belle, et en plus, ils disent Me'od. Et vous savez, on l'a déjà dit souvent ce soir, dans tous les shiurim, que me'od dans la Torah, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, elle était si belle, se sont dit les sbires de Paro, que seul le roi peut la prendre. Ça a déjà eu l'avantage de mettre Sarah à l'abri des désirs du peuple. Ça s'est donc dit sur Sarah. Dans le Nath, on trouve l'expression Yafa, sans être une expression construite. Quand ils disent, les gens de Paro, qu'elle est Yafa, Me'od, le Hamed Davar dit, en vérité c'est superflu, on vient de dire qu'elle est Yafat Mare. Ça ne dit rien de plus que Yafat Mare en réalité. Mais pourquoi est-ce que ça figure, puisque c'est superflu? C'est parce qu'il s'agit ici du début du récit, de la réussite de la Hashgacha. Ils l'ont vue, elle est tellement belle, donc ils comprennent qu'elle ne peut être pour eux, parce que toutes les choses extraordinaires sont pour le roi. Et donc, ça met en marche tout le processus des relations entre Avraham Avinu et à terme l'Ebné Israël et l'Égypte. Les conséquences, ce sera par exemple que, après avoir essayé de prendre Sarah, Pharao, pour se racheter en quelque sorte, il va lui donner une province. Il va lui donner Goshen, là où l'Ebné Israël vont par la suite vivre, ils vont s'installer. Il y aura d'autres conséquences, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a le début d'un processus. C'est le début du processus que Avraham Avinu a mis en marche quand il a dit, ben Moïda, comment est-ce que je saurai que effectivement ma descendance ne faillira pas et que effectivement on aura cette terre d'Israël. Il avait demandé un signe. Et Hachem lui a dit, le signe, c'est le galout. Le signe, ce sera cet exil en Égypte. On va pas reparler maintenant de cet exil, mais vous savez bien que le peuple d'Israël est en exil avant d'être un peuple. Ce n'est pas encore un peuple, qu'on est déjà en exil. Donc on est vraiment né dans l'exil, et tout ça, ça se met en marche à ce moment-là, avec cette remarque des gens sur la beauté de Sarah, et le fait qu'il faut qu'elle devienne obligée, il faut l'amener obligatoirement chez Pharao. Et tout se met ainsi en marche. Je me suis demandé pourquoi Avraham Avinu, quand il parle à sa femme, Sarah, il lui dit, voilà, je sais que Isha efat mare'at. Pourquoi il a besoin de lui dire qu'elle a une femme belle, belle d'aspect. Vous savez qu'elle est une femme, ce n'est pas nécessaire de le dire. Ici, c'est comme si il fallait entendre que Isha, c'était ce qui indiquait à quoi servait la beauté. Que sa beauté, même si c'est une beauté d'une face marée, d'aspect, c'est une beauté qui vient se greffer sur son rôle de Isha. En quoi est-ce que Sarah était Isha? Elle était bien sûr l'épouse d'Abraham Avinu. Mais elle et Abraham Avinu sont pratiquement des égaux. C'est un couple d'égaux. En particulier, ils ont tous les deux eu des élèves avant d'avoir des enfants. Et vous savez que dans le premier paragraphe du Shema, lorsque le Passouk utilise le mot Bnechem, enfin les Banim, les enfants, va se traduire Talmidim. Donc comme si élève était premier par rapport à enfant. Comme si un enfant, d'une certaine manière, c'était d'abord un talmid, d'abord un élève. D'abord quelqu'un auquel on va transmettre un enseignement. C'est-à-dire la transmission n'est pas que la transmission de la vie, comme ce serait le cas si on mettait l'accent sur le fait que c'est un enfant. Et on transmet un contenu, on transmet un enseignement. Et elle a été une Isha avant d'être une mère, bien entendu. Elle a été majoritairement dans sa vie une Isha, une femme, une épouse, avant d'être une mère. Elle a excellé dans ce rôle de Isha, dans son rôle d'épouse. Et la beauté vient par-dessus. Elle vient, on verra par la suite, elle vient compléter, elle vient ajouter quelque chose. Et cette beauté, elle n'a de sens que si elle vient compléter quelque chose d'essentiel. Et Isha, ici, c'est essentiel. Sarah, c'est Isha. Sarah, c'est l'alter ego d'Abraham. Finalement, elle va aussi être mère, la mère d'Israël Kabinou. Elle va être un modèle comme on voit par la suite, Rivka dans la tente de Sarah. Sarah est un modèle que Rivka va, d'une certaine manière, dépasser, puisqu'elle va partir de là où Sarah est arrivée. La Gemara dans Megillah, Tanu Rabbanan, quatre femmes étaient Yefefiyot. Le Marsha dit, Yefefiyot, il faut l'entendre comme si c'était Yafé, Yafé. C'est-à-dire un redoublement de la beauté. C'est-à-dire très belle. Des femmes exceptionnellement belles. Les Rabbanan disent, il y en avait quatre dans le monde. Sarah, Abigail, Rahab et Esther. Et d'après celui qui pense que Esther était olivâtre, elle avait un teint olivâtre, c'était pas spécialement beau, il faut remplacer Esther par Vashti.
Rahab ne figure pas.
Pardon ?
Rahab ne figure pas.
Alors, il y a un Chazal qui dit que, en fait, Rahab était complètement hors. Hors course. Zal s'exprime très crûment, ils disent que Sarah, par rapport à Chava, c'était une guenon. Mais elle compte pour beurre, Chava, parce qu'elle n'a pas été créée, elle n'a pas été conçue par des hommes. Donc elle a un statut à part. Quatre femmes. On a dit quelques petites choses sur Sarah. Abigail, il est dit dans le texte, il n'est pas parlé spécifiquement de seulement de sa beauté. On dit qu'elle était Tovat Sechen Vifat Tohar. Elle avait des beaux traits, mais elle était d'abord Tovat Sechen. C'était visiblement dans son histoire avec son mari qui était un vaurien, disons. C'est une épouse très, qui s'est sentie très responsable, qui s'est investie, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. Et Chazal dit que Abigail, c'est quelqu'un dont on se souvient et qui marque de cette manière-là. C'est quelqu'un qui, bon, elle était belle, visiblement elle est une des quatre plus belles femmes. On peut se poser des questions, pourquoi il n'y a pas Abishai, la Shunamite, dont on nous dit clairement qu'elle était extrêmement belle et tout. Ensuite il y a Rahab. Rahab qui a une première partie de sa vie où elle a un potentiel fabuleux mais mal utilisé, jusqu'à ce qu'elle devienne après une Tshuva qui elle aussi est tout à fait hors du commun, l'épouse de Yoshua. On peut penser que cette beauté chez Rahab, Rahab ça veut dire large, et ça fait penser à ce que Rashi dit sur Yart Elokim Nefet, Rashi dit Marchiv, élargir l'horizon. C'est-à-dire que la beauté de Rahab élargissait l'horizon de celui qui la voyait. Ça lui ouvrait des horizons, en fait. Esther, il n'est pas dit qu'elle était belle, il est dit qu'elle avait du chayl, qu'elle avait de la grâce. C'est une épouse, elle se sacrifie, mais elle résiste, d'abord passivement, en ne disant pas qui elle est, etc. Puis activement, c'est... Au départ, elle est complètement aux ordres de Mordechai, de son mari, mais ensuite, c'est elle qui prend la main, c'est elle qui décide, c'est elle qui organise tout. Et en fait, elle prend là un risque de penser que c'est elle qui a réussi. Elle a réussi, elle a sauvé le peuple d'Israël. Hachem lui montre, à elle est seule à le savoir, mais il lui montre que c'est pas vrai. Vous savez, on en avait parlé déjà l'an dernier, ou il y a plus longtemps encore, que Esther s'est trompée. C'est-à-dire que quand elle était face à Achashverosh et Aman, et quand Achashverosh a dit « Miouze ve'ezehu asher m'la'olibo » etc., elle a pointé le doigt sur Achashverosh. Elle a pointé son doigt sur Achashverosh. Parce que les décrets étaient signés à Achashverosh. Achashverosh avait donné son sceau à Aman. Et Aman, il fabriquait les décrets qu'il voulait et il les scellait avec le sceau d'Achashverosh. Malheur, Gabriel est venu, il a déplacé son bras pour que ça pointe vers Aman. Donc elle le sait. Elle sait qu'elle avait tendu le... qu'elle, en fait, elle était pour incriminer Achashverosh, qui aurait été un désastre. Parce que maintenant, Aman, elle aurait dû faire équipe avec Aman. Et Aman sachant qui elle était, Aman c'est Amalek, on ne peut pas imaginer la grandeur du désastre. Hachem l'a sauvée. Donc elle a sauvé le clan d'Israël. Pour tout le monde, c'est elle. En fait, c'est Hachem qui a sauvé le clan d'Israël. Mais pas seulement parce que c'est Hachem qui fait tout. Mais même à ce moment-là, c'est Hachem qui a envoyé le malheur Gabriel pour déplacer le bras de l'Esther. Et puis, si il faut prendre Vashti à la place d'Esther, c'est une femme qui est complètement... Elle est utilisée par son mari, bien qu'elle lui soit supérieure au point de vue de tout son yichus. C'est elle, la descendante de Nebuchadnezzar. C'est probablement une beauté physique, on va voir un petit peu par la suite. Mais elle cherche une beauté qui cherche à se perpétuer à tout prix. Tout prix, ça veut dire, y compris avec les bains de sang, etc. Elle finit par comprendre qu'elle est manipulée par son mari, elle se révolte, mais elle perd la partie, non pas contre son mari, mais contre Aman, qui est le conseiller de son mari. Et elle meurt à temps pour laisser la place à Esther. En fait, c'est le... Hazal dit, c'est le Satan qui les a complètement embrouillés jusqu'à ce qu'Achashverosh tue Vashti. Vashti était la fille unique de Belshazzar et la femme d'Achashverosh. Et Hazal dit que pourquoi est-ce qu'Achashverosh a sorti les kélim du Beth Amikdash pour son festin? Parce qu'il a pris modèle sur Belshazzar. Donc en fait, il fallait punir Belshazzar et Achashverosh, c'est de cette manière-là, c'est-à-dire que la seule descendante de Belshazzar est morte, et la femme d'Achashverosh est morte également. Les deux sont punis en même temps. On va parler un petit peu de Yosef. Yosef est aussi défini par sa beauté. On utilise pour lui, qui est un homme, les mêmes termes que ceux qu'on utilise pour les femmes. Comme si la beauté, ne se disait que sous la même forme de Yafé Toar, Yafé Maré. En fait, le Ramban dit sur Ben Porat, le Ramban dit Ben Chen. Il parle aussi de sa grâce. Le Magdavar décrit en fait le Tzada Leshur comme étant, il dit, il était tellement grand, il était Toar Panav, était tellement extraordinaire que les femmes ont grimpé sur tout ce qu'elles pouvaient, sur quoi elles pouvaient grimper, pour voir Adam Yafé Kamo, un homme aussi beau que lui. Mais il dit que finalement, toute cette beauté, chez Yosef, le Hamed Gavar l'interprète en termes de Chokhma. On verra par la suite que la Chokhma et la beauté vont certaines fois ensemble, et d'autres fois, on a un peu l'impression que ça fonctionne comme des vases communicants. Le Hamed Gavar dit pourquoi est-ce qu'on parle de cela. C'est parce que du fait qu'il est fétoire, parce que le Hamal, les efforts, le travail difficile, ça abîme le toit. Et le Hamed Gavar dit que ça vient nous enseigner, nous dire qu'il était effetoire, ça vient dire que lui, il ne faisait pas tellement d'efforts. Yosef avait beaucoup de travail, et il ne faisait pas beaucoup d'efforts. Il avait une siyata d'Ishmaïa absolument extraordinaire. Tout ce qu'il touchait réussissait. Et donc, il n'y a pas d'effort. C'est ça qu'on vient nous dire, qu'il est effetoire, bien qu'il ait beaucoup de travail, et qu'on aurait pu imaginer qu'ayant beaucoup de travail, il doit faire beaucoup d'efforts, et que ça aurait dû effectivement gâcher son tohar, sa beauté, il n'en est rien, et le mec d'abord dit que ça veut dire qu'il ne faisait pas d'efforts. Ça veut dire, ça indique la chokhma, ça indique la siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel qu'il avait dans tout ce qu'il faisait. En passant, le Hamed Gavar dit être effet toar et effet marais, c'est une naissance, donc c'est totalement inintéressant. En soi, c'est inintéressant. Le Rav Volber, il ramène ce Ramban qui dit que Ben Porat, ça fait référence à la grâce, au Cheng. Et le Cheng, dit-il, c'est un dévoilement de Kdusha. Il dit que là où il y a de la Kdusha, il y a du Cheng. Et la Mida de Yosef, c'est la Kdusha. En fait, c'est construit sur un Maharal. Le Maharal est... plusieurs endroits, mais il est en particulier dans un commentaire sur la Gemara dans Gittin. C'est la Gemara, donc bref, c'est une Gemara qui parle de la situation des Bnei Israël lorsque les Romains ont gagné, lorsqu'ils ont emmené les Bnei Israël en esclavage. Et pour le dire rapidement, le Maharal enseigne, à partir de toutes ces gmarotes qui nous racontent ce qui s'est passé d'absolument terrible pour ces Bnei Israël, le Maharal dit, il fait remarquer que systématiquement, la Gemara a pris des exemples d'enfants de Kohanim Gdolim, d'enfants dont le père était Kohen Gadol, et souvent la Gemara dit qu'il était Nifnas, Nifnai, Velifnim. C'est un Kohen Gadol qui entrait dans le Kodesh HaKodashim. Et donc le Maharal explique que cette entrée dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire cette entrée profonde, c'est cette idée d'entrer dans la Kedusha, quand on entre profondément dans la Kedusha, quand on est vraiment dans la Kedusha, alors on peut en sortir de la beauté. C'est-à-dire la beauté, c'est une expression de la Kedusha. Une expression, ça veut dire donc une manifestation extérieure de la Kedusha. C'est de cette beauté-là qu'on parle. On ne parle pas d'une beauté purement extérieure, qui n'aurait pas d'arrière-plan en quelque sorte. On parle d'une beauté qui est une expression. C'est-à-dire la beauté n'est pas quelque chose en soi. C'est pas quelque chose qui a une valeur pour soi. La beauté en question, c'est seulement l'expression de quelque chose. Quelque chose qui a en soi une valeur. Ce qui est important, c'est la Kedusha. Et la beauté, elle indique la Kedusha. Elle montre qu'il y a de la Kedusha. Pourquoi cette Kedusha doit se montrer à l'extérieur? Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent justifier qu'on ait besoin de savoir qu'il y a là de la Kedusha. Donc, en fait, quand on dit qu'on parle de cette beauté de Yosef, c'est en réalité l'expression de sa Kedusha. Pasuk dit de Yosef, Vehu Nar. C'était un jeune homme. Et là-dessus, les commentateurs disent que Choufré d'Adam Arishon, la beauté d'Adam Arishon, dans la Torah, c'est pas marqué que c'était spécialement beau Adam Arishon, mais ça va de soi, c'est un peu ce qu'on a dit sur Chava, et sûrement vrai pour Adam Arishon aussi. La beauté, dit Chazal, la beauté de Yaakov avait quelque chose à voir avec la beauté d'Adam Arishon. C'est-à-dire, elle était comparable, chose égale par ailleurs probablement, à la beauté d'Adam Arishon. Et comme on dit que la beauté de Yosef était du même ordre que la beauté de son père, qu'il était exactement le portrait de son père, ça veut dire par sensitivité que la beauté de Yosef était comparable à la beauté d'Adam Arishon. Quelque chose d'assez incroyable, si on peut parler de ça. De Yaakov, on parle de sa beauté, on parle de sa beauté, on en parle surtout quand il quitte Vayetse Yaakov, quitte la ville, et on dit que quand le tzaddik quitte la ville, alors ça, son rod, son hadar, son ziv, c'est l'expression de la beauté, quitte la ville aussi, c'est-à-dire la ville avait de la beauté, une sorte de forme de beauté. Et cette beauté s'en va dès lors que le tzaddik, qui était en fait la raison de la beauté de la ville en question, dès lors que le tzaddik s'en va, la ville perd de son éclat. Donc ici on voit clairement là, cette une allusion à la beauté de Yaakov qui n'est pas dite par ailleurs. Le Maharal, il dit que en fait, il y a une discussion pour savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait, que Yosef était le portrait de son père. Certains disent que ça veut surtout dire que son père lui a transmis tout ce qu'il avait appris, lui, à la yeshiva de Shem Ever. Pendant les 14 ans où Yaakov a étudié chez Shem Ever avant d'aller chez Laban, il a appris de la Torah. En fait, il a surtout appris la Torah du Galout, la Torah de l'exil. Comment est-ce qu'on étudie la Torah en exil quand on n'est pas dans les meilleures conditions? C'était très nécessaire, parce que le clan Israël aura eu besoin de cette Torah que Yaakov nous a enseignée à travers Yosef. Tout ce que vous voyez ici, et beaucoup plus, pratiquement été produit en exil. Donc, on avait besoin de savoir comment on produit la Torah de l'exil. Donc, ce serait ça de dire qu'il était le portrait de son père, c'est-à-dire son père lui a transmis, si la beauté, en fait, c'est la chokhma, c'est la sagesse, ou si on peut dire qu'elles vont de pair, en tout cas, alors on comprend bien que dire qu'il était le portrait de son père, au point de vue de la beauté, ça veut dire que son père lui a tout transmis. À part le fait qu'il y a une autre opinion qui pense qu'il était vraiment physiquement l'image de son père. Mais, dit le Maharal, les deux choses n'ont donc rien à voir avec le corps. Là, c'est simplement que même d'être le portrait physique, c'est, ça ne peut pas vouloir dire, dit le Maharal, qu'on a affaire ici avec le corps. Ce n'est pas qu'il avait les mêmes traits au sens physique du terme, mais ça veut dire que l'image, pas seulement la transmission, mais la façon de rayonner de Yosef était analogue à celle de Yaakov. La façon qu'il avait, lui, Yosef, d'influencer les gens autour de lui, c'est de la même manière que Yaakov rayonnait autour de lui. Une maîtrise, effectivement, des relations avec les gens. Pas simplement un contenu de Torah, c'est l'autre chita. Quand on dit qu'il était un art, on dit c'est que c'est quelqu'un qui ne voit pas les conséquences de ses actes. À ce moment-là, il a 17 ans et il ne voit pas, il ne prend pas la mesure de ce qu'il est en train de faire. Il rapporte, il fait Maaseh Naharut, il rapporte les faits supposés de ses frères. Il s'est trompé. Bien sûr, il s'est trompé dans l'évaluation qu'il a faite de ses frères. Il s'est en tout cas trompé en pensant que ses frères étaient obligés de faire, disons, dans notre langage, on dirait de faire les chumrot que lui faisait. Il n'était pas contraint. Seulement lui, il était encore jeune et il pensait que c'était impérativement comme ça qu'il fallait se conduire. Peut-être pensait-il qu'il faut se conduire de cette manière obligatoirement si on est, si on veut être les Shvatim, si on veut être en fait les éléments à partir desquels le clan Israël va se construire. On ne peut pas imaginer que le clan Israël se construise de diévet, c'est-à-dire se construise avec des conduites qui sont acceptables a posteriori, mais pas a priori. On est quand même en train de mettre des fondations du clan Israël. Les fondations, a priori, les fondations, c'est a priori, c'est pas a posteriori. Alors, en fait, on voit très bien que Hatal dit sur Yosef que quand il s'est aperçu, quand sa vie, quand il s'est aperçu qu'il avait un pouvoir, quand est-ce qu'il s'en est aperçu? Il s'est aperçu quand il était dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a donné la gestion totale de ce qu'il avait après avoir mis Yosef à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que Yosef pouvait lui donner tout ce qu'il voulait. Même quand il lui disait « je veux du café », il préparait du café, bon, il disait « je veux du thé », ça devenait du thé, etc. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait un pouvoir là chez Yosef, absolument extraordinaire, donc il lui a tout donné. Et quand Yosef s'est vu avoir ce pouvoir, il était Moshel, comme dit Strazal, c'est là qu'on dit qu'il était, il fait Tohar. Strazal dit, comment c'est possible, il s'est mis à manger, à boire, à piquer ses yeux, ses cheveux, etc. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, ton père est en deuil, ton père porte ton deuil, et toi, tu es encore en train de te pomponner, je vais envoyer l'ours. L'ours, c'est Madame Potiphar. Il a envoyé Madame Potiphar. Donc il a eu ce problème. Il s'en est tiré, bon, disons difficilement, mais il s'en est tiré. Il n'a pas tout réussi à sauver. Comme on sait, il y avait un grand problème dans la tête de Yosef. C'est que Yosef a pensé que ses frères, en fait, n'étaient pas à la hauteur d'être les constructeurs ou les bases du clan Israël. Il pensait donc que son père, Yaakov, avait raté. Il n'avait pas réussi, en fait, à construire le Klal Israël, à construire le noyau du Klal Israël. Et Yosef savait que lui, il était porteur de 12 fils. Il a pensé que ce serait lui le constructeur du noyau du Klal Israël. Ça veut dire que son père, aurait été une espèce de coup pour rien, un transmetteur de vie simplement, mais pas celui qui allait construire le Klal Israël. Mais il aurait quand même transmis la vie à celui qui allait la construire. Ça peut être une raison de vivre. Et bien sûr, il s'est trompé, comme vous savez. Et finalement, il n'a été sauvé que, dans cette affaire, que grâce, justement, à cette image de son père. On comprend très bien que si l'image de son père, c'était aussi sa propre image, donc il a vu à la hauteur à laquelle il devrait être, et il s'est rendu compte que s'il cédait à Madame Potiphar, il ne serait pas à cette hauteur-là. Ça lui a donné la force de s'enfuir. Il s'est enfui. Ici, donc, là encore, on a un cas où il faut faire l'éloge de la fuite. Dans cette situation-là, c'était ce qu'il fallait faire, s'enfuir. Cette beauté de Yosef, elle lui a causé donc des problèmes. Parce que Madame Potiphar, c'est cette beauté ou cette chokhma, c'est pas toujours clair. Qu'est-ce qui a séduit Madame Potiphar? Cette puissance de Yosef ou c'est vraiment sa beauté? Prenons les deux d'ailleurs. Cette beauté, donc, on a dit, donc, qu'elle exprimait la Kdusha, le Paraditra dit que ce lien, cette beauté, dans Olam Hazeh, si on veut, et la Kdusha qui est le lien avec le Olam Haba, donc ce lien qu'il y a entre les deux Olamot, entre le monde ici-bas et le monde à venir, que fait Yosef, en fait? C'est ce qui dérange essentiellement Yavan, c'est ce qui dérange la Grèce, dans l'idée. Et la Grèce va essayer d'annuler complètement ce lien, enfin cette possibilité que le clan Israël offre de faire ce lien. Ils vont par exemple s'attaquer à la Mila, qui est aussi une façon de faire un lien entre le physique et le spirituel. Mais ça veut donc dire que avec Yosef, on s'aperçoit que Yavan et Israël ont en commun la Chokhma, tout le monde, c'est ce que tout le monde dit, mais on voit qu'ils ont aussi en commun la beauté qui est la caractéristique de la Grèce. Et on s'aperçoit que la tzidkout de Yosef est tellement imbriquée avec la beauté, c'est-à-dire il est Yosef, qui est l'archétype du tzadik, en fait, il est à ce point-là marqué par la beauté. Et c'est cette beauté de Yosef qui va permettre de vaincre le Yafiuto shel Yefet, c'est-à-dire la beauté d'Yefet, c'est-à-dire celle de la Grèce. En fait, la beauté, c'est quelque chose de dangereux. Yosef, son emblème, c'est le taureau, le chor. Comme vous savez, Yosef a fait promettre aux Bnei Israël que quand ils sortiraient de Mitzrayim, ils emporteraient son cercueil. Et Paro, pour empêcher les Bnei Israël de sortir, il a fait sceller le cercueil de Yosef au fond du Nil. Quand les Bnei Israël ont voulu partir, alors tout le monde dans le clan Israël s'est occupé d'emprunter de l'or, de l'argent, etc. Et Moshe Rabbeinu s'est occupé d'aller chercher ce fameux cercueil, l'a trouvé, et pour déceler le cercueil, il a écrit sur une plaque d'or, il a gravé « Allez, chaud, monte, taureau », c'est-à-dire « monte, Yosef, remonte ». Ça fait monter, comme vous savez, le cercueil de Yosef. Mais du coup, vous savez bien que cette plaquette, je suis ravi, je ne s'en ai pas occupé, par la suite, elle a été récupérée, et elle a finalement atterri dans le creuset dans lequel Aaron avait jeté l'or qu'il avait ramassé pour faire quelque chose. Quelque chose dont les Bnei Israël disaient que on a besoin de quelque chose qui représente ce qui nous a fait sortir d'Égypte. Et donc cette beauté de Yosef qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé, parce que finalement c'est toute cette beauté, c'est à la fois cette chokhma et cette beauté de Yosef qui ensemble lui ont permis d'arriver vice-roi d'Égypte. Et donc tout le rôle, toute cette histoire du cercueil scellé, etc., tout le rôle qu'il a joué, et ensuite ce cercueil qui, comme vous savez, c'est marqué que la fuite de Yosef devant Madame Potiphar, Chazal nous dit que Yosef a été récompensé parce que lui il a fui. Nafta, toi tu as fui devant Madame Potiphar, alors la mer va fuir devant toi. Si la mer s'est ouverte, Hazal dit, c'est par le mérite du cercueil de Yosef, par le mérite de Yosef. Quand la mer s'est ouverte, sur l'ordre de, on l'appelle avec la main, le bâton de Moshe Rabbeinu, mais le mérite, c'est le mérite de Yosef. Donc, il joue un rôle absolument fondamental. Et voilà, cette plaquette-là, elle a fait monter Yosef, mais elle a aussi fait monter Aleshor. Il est sorti du creuset un taureau. Il est sorti du creuset le taureau qui est l'emblème de Yosef. On peut comprendre que il n'y avait que cela, j'en dis souvent, il n'y avait que ça qui pouvait jouer ce rôle-là. Parce qu'il fallait jouer le rôle de ce qui nous a fait sortir de Mitzrayim, sortir d'Égypte. Donc ça veut dire dominer l'Égypte. Le seul qui ait jamais dominé l'Égypte, à part Moshe Rabbeinu, c'est Yosef. Donc lui, on pouvait l'investir du rôle de nous avoir fait sortir. Je vous ai déjà dit de nombreuses fois qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que il ne faut pas penser que le fait d'être descendu en Égypte, c'est un accident qu'il faut réparer avec la sortie d'Égypte. La descente des Bnei Israël en Égypte est causée par cette dispute entre Yehuda et Yosef. D'une certaine manière, c'est Yosef qui fait descendre tout le monde. Cette descente, c'est le commencement de la sortie. Ce n'est pas un accident qui pourrait paraître. Le commencement de la sortie d'Égypte, c'est de descendre en Égypte. Il fallait qu'on descende pour pouvoir en sortir. Donc Yosef, effectivement, est l'artisan de la sortie d'Égypte. Donc, ce qui est sorti, ce n'était pas quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on cherchait. C'est bien ça qui est sorti. C'est sorti parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait sortir. Donc c'est cette beauté de Yosef, en fait, qui a fini par faire sortir le Hegel aussi. Ce mélange de reine et de beauté, donc de grâce et de beauté chez Yosef, que Yaakov reconnaît, qu'il bénit, ce, ce mélange-là, il peut devenir très dangereux, comme dit Michelet, comme dit Shlomo HaMelech dans Michelet, « Sheker achen vehevel ayofi ». Le chen peut être un mensonge, et la beauté, ça peut être de la buée, rien du tout. Hadas on doresh. L'Agma dans Sanhedrin, on dit « Sheker achen » c'est Yosef. On dit du chen de Yosef. Sheker. Parce que c'est aussi porteur. Il y a toujours, les deux choses sont là. C'est aussi porteur du Hegel, finalement. L'Almara, c'est un Midrash. Dans le Midrash, on rapporte ce qui va ensuite devenir une halakha. Le Midrash Tanhuma, dans Parshat Vayetse, il dit, il demande, quelle est la bracha qu'on doit faire quand on voit une belle personne? Et le Midrash dit finalement la beauté c'est quelque chose, parce que dit le Midrash, est-ce qu'il y avait le Midrash qui pense comme ça, est-ce que jamais quelqu'un n'a été aussi beau que Rachel? C'est pour cette beauté que Yaakov a voulu l'épouser. Midrash. Alors le Midrash répond, et on va tout de suite voir dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, il y a une bracha qu'on ne fait plus aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. On fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, et on dit Shekacha lo beolamo. C'est comme ça pour lui, pour Hachem, dans son monde. C'est dit sur quelqu'un d'extrêmement beau, puis le Chayi Adam dit qu'on ne le dit plus, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On utilise une drôle d'expression. Là, on parle de beauté. Et le mot beauté, d'une quelconque manière, il ne figure pas du tout dans la bracha. On aurait pu dire qui a créé la beauté, qui dispense la beauté, qui permet la beauté. Non, rien de tout ça. Shekacha lo beolam. C'est comme ça pour lui dans son monde. Ça veut dire quoi? Ça vient dire ici que une espèce d'harmonie dans le monde, dans le monde d'Hachem, et pour lui, cette beauté, elle est pour lui. Cette beauté, c'est une beauté qui réjouit Hachem, finalement, si on peut parler comme ça. Ça veut dire que la beauté, c'est l'expression la plus générale de la création. C'est l'expression de l'harmonie, de l'équilibre. On n'est plus dans le détail d'une bracha sur du pain, sur du fruit, sur la mer, sur le tonnerre, etc. Et c'est cet ensemble, cette totalité, kacha, c'est comme ça dans son monde. Pour lui, c'est comme ça dans son monde. C'est-à-dire que la beauté, c'est cette espèce de potentiel qui sous-tend la création. Thank you. Hirsch, quand il essaie de définir la beauté, il dit qu'en fait, la beauté, c'est l'effet que ça fait sur l'observateur. La beauté, c'est une espèce d'aspiration, de souffle, d'inspiration. C'est un rayonnement que fait le beau sur l'âme, sur le cœur. Ça, ce serait la beauté. La beauté, ce serait donc un effet sur l'observateur. Comme si la beauté n'était rien en soi. L'important, c'est on ne la connaît que comme effet. Je vais venir au cœur du problème, la beauté des vaches. La mec d'Avar pose la question. Comment est-ce qu'on peut comprendre? On utilise les mêmes expressions. Il fait marais, il fait toa, marais, pour les vaches que pour les êtres humains. Il ne dit pas ça que vous pouvez être vexé, frustré. Il se demande quand même, mais comment se fait-il qu'on utilise les mêmes expressions? Alors il dit, en fait, pour les hommes. On voit, qu'est-ce que ça veut dire, le fait tohar pour un homme, pour un être humain, je veux dire. C'est la forme du visage. Semble-t-il, il y avait, dans certains critères de beauté, Rashi, il ramène un visage rond. Rashi, il utilise même le mot compas. Il est au compas. C'est une bonne bouille. Bon, on va pas commencer à discuter si vous préférez les ovales, les ellipses, les... Voilà. Peut-être qu'il faut faire le carré, le triangle.
L'ellipse seulement, non, justement.
Rôle de foyer, quoi. Et il fait marrer le Rashbam, donc le Pashtan. Le Rashbam dit c'est Tach ve'Adom, lo shachor ve'lo lavan. Tach ve'Adom, le rouge, que ni noir ni blanc. Pas trop pâle, pas trop foncé, un peu rouge. J'ai essayé de faire subventionner ça par une marque de cosmétiques, mais j'ai pas réussi. Almara dans Vakama, elle parle de la beauté des vaches. Elle dit en fait, il est fatoire pour une vache, le fait que quand la vache est pleine, alors ça lui donne une belle allure. C'est-à-dire qu'en fait, elle a l'air plus grasse que les vaches grasses, parce qu'elle est pleine. Et puis, il a fait marrer, c'est l'aspect de la peau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la beauté, c'est faire ce pour quoi on a été créé. La vache, c'est pour produire des veaux, de la viande, du lait. Pour les humains, on a dans les fameuses quatre femmes dont on a parlé au début, il y a Rahav dans sa première partie de vie et Vashti. On a essayé de dire finalement à quoi elles ont servi et qu'elles étaient belles parce qu'elles ont rempli leur rôle, elles ont joué leur rôle. Dans les femmes, enfin dans les hommes d'ailleurs aussi, que ce soit Sarah, Rachel qui est Ifat Toar ou Ifat Maré, Yosef, Shaoul, David. Voilà, c'est des gens qui ont rempli leur rôle. La beauté, c'est donc ça finalement. C'est l'expression, extériorisation donc, de ce qu'on est à la hauteur de ce pourquoi on est créé. Alors, bien entendu, il y a des déviances. Bien entendu, il y a des vaches maigres. Et puis, il y a Rachav, avant. C'est la prostitution. Et il y a Vashti, dans sa cruauté, etc., dans sa démarche de « pour que je sois belle, on peut tuer les enfants, etc., pour que je puisse prendre des bains de sang, etc. » Tout est permis. Et puis, il y a la déviance de Yosef à un certain moment. Hachem lui dit, ton père est en train de porter ton deuil, et toi là, tu t'occupes de te faire un peu plus beau. En fait, même le clan Israël, Pasouk dans Sefer Dvarim, Hachem dit, bon, je sais qu'il le rapporte, le titre Elion al Kol Agoyim, pour faire de toi un peuple qui est supérieur, le Shem ou le Tiferet, ton renom, ta beauté, Saham Kadosh Lashem Elokecha, Kacher Diber, ça veut dire, tu as été créé pour ça. Donc tout ce qui est, tout ce qu'on demande, mon cher Abel, tout ce que je te demande, c'est en fait d'être ce pourquoi tu as été créé. D'être à la hauteur du programme que tu portes, en fait. On a vu qu'il y avait un potentiel. Il y a cette idée de potentiel qu'on a vu chez Rahab. Un énorme potentiel qui peut être mal utilisé, mais quand il est bien utilisé, c'est un potentiel gigantesque. Le titre Elion al Kol Agoyim, pour faire de toi un peuple supérieur à tous les autres peuples. Et maintenant, cette beauté, si on revient à ce qu'on a vu, la beauté de Sarah, on avait dit, c'est d'être parfaitement épouse. Parfaitement Isha. Et ça s'extériorise par cette beauté extraordinaire. Mais on voit très bien que même cette beauté extraordinaire, ça dépend qui la regarde. Avraham Avinu dit, faites marrer. C'est-à-dire, c'est pas un tout. C'est, tu extériorises, tu exprimes, un point bien précis, qui est le point principal de ta vie, mais on ne parle pas du tout. Néanmoins, les sbires de Paro, quand ils la voient, ils voient uniquement une beauté extraordinaire. Un tout. Ils voient le tout. Et le tout est parfait. Mais Abraham Vinou, il ne met pas l'accent sur le tout. Et on ne met jamais l'accent. Ça veut pas dire que on extériorise tout. On ne peut pas tout extérioriser. Mais eux, ils pensent que c'est le tout. Et ils prennent la chose complètement superficiellement. C'est ce qu'ils disent. Elle est tellement belle, seul Paro peut la prendre. Et la beauté de Yosef, aussi c'est toujours Toar ou bien Maré, voilà, il a besoin d'extérioriser ça, parce que c'est comme ça que ça qu'il est arrivé chez Potiphar. Parce que Chazal dit, Potiphar, il a acheté l'esclave Yosef pour sa beauté. Potiphar, il n'était pas très net, comme on dirait aujourd'hui. Il a vu un esclave qui était très beau, il se l'est acheté. Donc c'est la beauté de Yosef, pour de mauvaises raisons, qui lui a permis d'entrer dans cette situation avec toutes sortes d'écueils dont il s'est finalement bien tiré pour jouer un rôle fondamental dans le peuple d'Israël. Alors ce midrash qui dit est-ce que quelqu'un était plus beau que Rachel? A priori, il y a bien un midrash qui dit que Yaakov savait, comme Léa le savait aussi, qu'il y avait un chidouch entre lui et Rachel, comme il y avait un chidouch entre Esav et Léa. Quand on lui a dit que c'était Rachel, on peut dire, bon, il savait. C'est la femme avec laquelle je dois me marier. Le Midrash, il a l'air de dire autrement. Le Midrash a l'air de dire, il a vu Rachel, mais il était subjugué par sa beauté extérieure. Bien sûr que la beauté de Rachel exprimait sa grandeur. Ça exprime, c'est curieux d'ailleurs, parce que chez Rachel, qui est tout entière de réserve, de tzniout, celle qui va se taire, etc., elle a justement une expression de ses qualités qui fait qu'elle sort du lot. Donc l'expression n'est pas du tout obligatoirement en phase avec la mida. Elle a une mida d'extrême réserve et sa beauté est extraordinaire. Il y a encore un point. Chazal dit qu'il y avait, à une certaine époque, il y avait des gens dont on disait qu'ils étaient de belles personnes d'Yerushalayim. Ce sont des hommes. Et le Rabbi Yochanan est le dernier de ceux qui étaient de ces belles personnes. Et la Gemara dit que, vous savez bien, c'est ce fameux Rabbi Yochanan qui, quand il est entré dans une pièce qui était obscure, il a dévoilé son bras. Le bras était tellement lumineux qu'il a illuminé toute la pièce. C'est aussi lui qui pensait que si les femmes voyaient sa beauté, ça pouvait les inspirer d'avoir de beaux enfants. C'est déjà un peu plus difficile à comprendre. Mais la Gemara, elle rapporte que la beauté de Rabbi Yochanan était telle que, c'est pour ça qu'il faut l'expliquer, semble-t-il, la lumière divine qui on peut avoir dans son esprit, c'est-à-dire l'inspiration qu'on peut avoir dans son esprit, qui permet cette inspiration que les Chachamim ont, enfin avaient et ont, cette inspiration-là, chez Rabbi Yochanan, elle descendait jusqu'au niveau du corps. Donc il y avait une perfection divine, si vous voulez, une lumière qui descendait et qui s'exprimait dans son corps aussi. Il est le dernier à avoir cela. L'Agma rapporte que Rabbi Yochanan est tombé malade et Rabbi Eliezer est venu et il lui a demandé « Est-ce que ces souffrances que tu encours là maintenant, est-ce que tu les veux ?» Et il a répondu, non, je ne veux ni les souffrances, ni ce qu'on peut gagner par ces souffrances. Alors Abelézer lui a dit, donne-moi ta main, et il l'a levé, il l'a sorti de ses souffrances. Pourquoi il a dû lui donner la main? Parce qu'il y a une halakha qui dit que le prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. On a besoin d'un tiers pour vous libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu un chat, je pense qu'effectivement il est satisfaisant. C'est qu'en réalité, ce corps de Rabbi Yochanan, qui était bon, qui était pur, enfin, au sens de, il n'y avait pas trop de scories pour que justement cette lumière puisse luire à travers son corps. Ça veut dire qu'il avait intégré une forme spirituelle, même dans sa matérialité, même dans son corps. Et alors, la question qui lui a été posée, c'est la suivante. Bon, ton corps, tu as travaillé sur ton corps, tu l'as amélioré, de telle sorte qu'effectivement il est à ce degré de luminosité, disons, et de beauté. Mais il faut toujours faire mieux. Et une façon de faire mieux avec ton corps, ce sont ces issourim, ce sont cette maladie, ces souffrances. Cette souffrance de ton corps va purifier ce corps. C'est en fait un travail de mise à l'extérieur de quelque chose qu'on pourrait appeler des scories, des éléments qui empêchent la lumière d'être aussi parfaite que possible. Et Rabbi Yochanan a dit, moi je ne veux pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui il considérait que les Issourim c'est Maase Hashem. Les Issourim, c'est Hashem qui les envoie. Je ne les ai pas choisis, il faut être à la hauteur, mais moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas qu'on m'impose la façon dont je vais me développer. La façon dont je vais améliorer mon corps. Je veux pouvoir choisir tout seul. C'est ce qu'il a dit. Moi, mon travail sur mon corps, je le fais par mon étude. Et je ne veux pas passer par les souris. Je veux que ça soit je veux pouvoir faire le travail, avoir fait le travail moi-même, avoir choisi. Bien sûr, il faut l'aide du ciel. Mais je veux avoir choisi moi-même, dans toute la mesure du possible, le chemin que je prends pour m'améliorer. Ça ressemble beaucoup à ce dont on a déjà parlé. Le Beit Yosef, Shulchan Aruch, il avait ce qu'on appelle un magid. C'est-à-dire qu'il y avait un ange qui lui a enseigné toutes sortes de choses, qui venait tous les jours lui enseigner. Et il en a fait un sefer d'ailleurs, les enseignements du Maguid. Et le Gaon de Vilna a dit qu'on lui avait proposé un Maguid qui s'est proposé de lui enseigner des choses, et lui il a refusé. Il a dit ce que je viens de vous expliquer sur Rabbi Yochanan, sur le point de sa beauté. Il a dit, moi je veux pas de Maguid. Je veux travailler par moi-même, je vais étudier, je vais aller jusqu'au bout de mes forces dans mon étude. Bien sûr, ça demande encore une fois un siatadim, rien. Mais je ne veux pas qu'on me mâche le travail et qu'on me donne les choses. Bien sûr, ça demande un mérite. Celui qui a un maguid, il a un mérite. Le BSSF avait un mérite, bien sûr, pour avoir un tel maguid. Et lui, il avait aussi ce mérite qu'il pouvait lui donner ce maguid. Mais il a dit, moi je préfère le travail par moi-même. Et à la fin de sa vie, il a dit, je sais que je n'ai rien perdu de ne pas avoir accepté le maguide et d'avoir voulu travailler par moi-même. Donc on a la même chose ici au niveau de la beauté de Rabbi Yochanan que dans sa démarche. Et ça veut aussi dire qu'il y a une fin de la beauté, de ce type de beauté-là. Il y a une fin de cette extrême beauté qui descend jusqu'au corps. Et Rabbi Yochanan était le dernier. Au point que Rabbi Eliezer a pleuré quand il a vu que, il a cru que Rabbi Yochanan allait mourir. Alors il a dit, je pleure pour cette beauté-là qui va disparaître. Mais ça, il pourrait pleurer sur toute personne belle. Il va mourir, tout le monde meurt un jour. Donc, les personnes qui sont belles, elles meurent aussi. Donc la beauté va mourir, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que tu es le dernier dépositaire, le dernier qui est su s'élever à ce niveau-là, d'avoir d'avoir pu faire un travail qui a permis que cette lumière ne reste pas uniquement, la lumière qu'Hachem donne, ne reste pas uniquement au niveau de son esprit, au niveau de son sefel, au niveau de son cœur, mais aussi au niveau de son corps. C'est, avec toi, ça se termine. Il savait, tout le monde savait, semble-t-il, ceux qui sont susceptibles de savoir, tout le monde savait que Rabbi Yochanan était le dernier. C'est pour ça que quand il a cru qu'il a disparu, il a pensé que c'était la fin. Donc, finalement, le fait que la Torah ait utilisé les mêmes termes pour les vaches que pour les hommes, ça nous a éclairé au sens où ça nous a obligé à donner une définition de la beauté, qui est en fait la définition sur laquelle on est arrivé, c'est-à-dire d'être à la hauteur de ce pourquoi on a été créé, et donc la beauté c'est l'expression de cela, c'est être à la hauteur de. Alors bien entendu, si on prend la beauté comme une fin en soi, alors finalement, ça devient quoi? Ben, ça devient une divinité. Comme c'est devenu une divinité chez les Grecs, la beauté est une divinité.